voit qu'on est à une petite centaine de désintégrations par seconde. Tout à fait normal, hein, c'est ce qu'on trouve un peu partout dans l'environnement. Et puis on a quelques échantillons qui peuvent du coup faire fluctuer un peu le
détecteur. Ça, c'est de la paille de riz.
La paille de riz qui a été prélevée à Fukushima, pas longtemps après l'accident. C'est quand même quelque chose qui est relativement important. Donc, ça y est, là, le détecteur, il s'emballe. Donc là, on a déjà multiplié par 3 l'exposition, l'irradiation. Plus on s'éloigne, plus on va diminuer le rayonnement. Donc là, j'ai juste reculé l'échantillon de quelques centimètres du détecteur. Au bruit, on entend qu'il y a un rayonnement qui est moins continu, qui arrive jusqu'au détecteur. Le bruit tout à l'heure, si je me rapproche, on arrive, en fait, c'est comme si on saturait plus ou moins le détecteur. Et du coup, on sait que là, on a une source qui est assez importante.
C'est de la paille de riz qui vient de Fukushima. Alors, Fukushima, comment ouais. Vous avez récupéré ça?
Bah, ça nous a été envoyé en fait par des préleveurs volontaires du Japon dans les premiers jours après l'accident, qui voulaient connaître les niveaux de contamination.
L'explosion était attendue, France 3, et l'image est spectaculaire.
14 mars 2011.
Il est 11h01 ce matin au Japon, 3h01 en France. Le bâtiment qui enveloppe le réacteur numéro 3 de la centrale de Fukushima est soufflé. 6 personnes ont été blessées. L'enceinte extérieure a été soufflée. Mais le cœur du réacteur numéro 3 est intact selon le gouvernement. Il exclut un nouveau Tchernobyl. Une explosion similaire s'était déjà produite samedi, détruisant le bâtiment du réacteur numéro 1. Les habitants sont invités à rester chez eux.
Ceux qui ne l'ont pas fait doivent immédiatement regagner leurs habitations et rester à l'intérieur.
Plusieurs explosions en 3 jours et beaucoup d'interrogations sur la menace nucléaire. Le monde entier a les yeux rivés sur Fukushima.
David Boyer, vous êtes président, hein, c'est bien ça?
Oui, je suis le président de l'association. La CROSS, c'est un laboratoire associatif d'analyse de la radioactivité qui est né juste après la catastrophe de Tchernobyl, quand le nuage s'était prétendument arrêté à la frontière. Et donc à cette époque, des gens ont voulu mesurer par eux-mêmes, parce qu'ils n'avaient plus confiance dans les contrôles officiels. Toutes les installations nucléaires de France ont sonné, donc le nuage était passé, ils le savaient pertinemment bien. Mais les autorités françaises ont voulu éviter un vent de panique, enfin supposé vent de panique, et ont minimisé l'impact de la catastrophe. Alors que si on regarde dans d'autres pays européens, il y a d'autres mesures qui ont été prises, qui n'ont pas créé un vent de panique.
Donc il y a deux structures qui sont créées, hein. Il y a la CRO et la CRIRAD à l'autre bout de l'hexagone, on va dire. Ouais.
Donc ces deux se sont créées dans les deux endroits les plus nucléarisés de France, donc ce n'est pas un hasard non plus. Parce qu'il y avait déjà des militants antinucléaires sur place, des gens qui étaient préoccupés par les rejets des installations nucléaires, et qui donc savaient ce que c'était que la radioactivité, savaient ce que c'était qu'un becquerel, un sievert, qui avaient déjà des notions. Et la transformation de Tchernobyl, c'est que tous les Européens se sont retrouvés riverains d'une installation nucléaire qui était en plus derrière le rideau de fer. Et il y a eu la masse critique autour de ces gens qui connaissaient déjà pour créer un laboratoire d'analyse. J'étais étudiant à Strasbourg à l'époque. Donc je me rappelle du double langage entre l'Allemagne et la France, mais qui m'avait choqué.
Donc étudiant en physique, hein, parce que vous êtes physicien nucléaire, c'est ça?
Oui, c'est ça, j'étais étudiant en physique à Strasbourg.
Et aujourd'hui, vous êtes?
Je suis enseignant-chercheur en physique.
La CRO ne se positionne pas comme antinucléaire?
On n'est pas antinucléaire, on est critique sur le nucléaire. Et les principaux soucis de la CRO sont la protection de l'homme, enfin de la santé humaine et de l'environnement. Et donc on s'intéresse aux rejets, aux accidents, aux problèmes de déchets, donc tout ce qui sort d'une centrale, c'est notre principale préoccupation. Et après, on espère, c'est pouvoir démocratiser les choix scientifiques et technologiques. Donc on participe au débat sur les déchets, on a participé au débat sur l'EPR. Donc sur l'EPR, par exemple, on avait pris clairement position contre.
Et alors le financement de la CRO?
En partie des subventions publiques, la surveillance de l'environnement qu'on fait. Toutes ces données sont transmises au réseau national de mesure, et ça, c'est financé en partie par l'État. On vend des études aussi, donc les commissions locales d'information qui sont autour de chaque site nucléaire de temps en temps commandent des expertises, lancent des appels d'offres. On est souvent retenu, donc c'est aussi une source de revenus. Il y a évidemment les dons des adhérents, les ventes d'analyses, mais les adhérents, c'est plus sous forme de travail bénévole. On arrive à valoriser ça, et si on le transformait en salaire, on arriverait pratiquement à un tiers du budget de l'association. Sans ces bénévoles, on n'existerait plus. Et ce sont eux qui sont les garants de l'indépendance, que l'état d'esprit de la CRO est maintenu. Et tout ça.